Rosh Shabbat, on arrive à l'attachement de la parasha de Shmot. En Shmot, la Torah nous dit Ve Yosef Haye Be Mitzrayim. Lorsque Mitzrayim sont en Égypte, eh bien Yosef est en Égypte. Et là, Rachel a le Midrash. Pourquoi est-ce que la Torah nous répète cela? On sait bien que Yosef est en Égypte depuis déjà 22 années. Pourquoi est-ce qu'il faut le répéter encore une fois? Rachel a le Midrash qui dit que, pour nous dire que Yosef, il a passé plusieurs périodes dans sa vie. Tout d'abord, il était berger dans le troupeau de son père jusqu'à 17 ans. À 17 ans, il a été vendu en tant qu'esclave. Il était le dirigeant chez Potiphar pendant une année entière. Ensuite, pendant 12 années, de 18 ans jusqu'à 30 ans, il était jeté dans une prison. Et une prison à l'époque, c'était une genre de caverne, pas comme de nos jours. Et ensuite, il était roi en Égypte depuis l'âge de 30 ans jusqu'à la fin de sa vie. Et le Midrash nous dit que Yosef Hatzadik, eh bien, il avait cette grandeur d'âme et de caractère de passer toutes ces périodes dans la tzidkout. C'est-à-dire qu'en général, une personne est très influencée par ce qui lui arrive. S'il est roi, s'il est dirigeant, s'il est PDG, automatiquement, il devient orgueilleux et vaniteux, il va se mettre à écraser des gens à droite à gauche, etc. S'il n'est pas considéré, s'il est en prison, il va être brisé, découragé, désespéré de la vie, etc. Et là, la Torah nous dit que Yosef, il a su passer toutes ses peurs de la vie. Il était un berger, un simple berger, qui n'est pas un travail très extraordinaire, travailler pour la Parnassa. Ensuite, il était dirigeant chez Potiphar pendant une année. Ensuite, dans une prison, un trou, une caverne, dans des conditions vraiment très médiocres pendant 12 années, les meilleures années de la vie, de l'âge de 18 ans à 30 ans, une personne ordinaire aurait perdu la raison, aurait été désespérée de la vie. Mais Yosef, dans toutes les situations, n'a pas baissé les bras. Le Midrash dit que même bien souvent, il se mettait à chanter et à danser dans la prison. Pourquoi? Parce que Yosef savait pertinemment que Hachem l'a envoyé en Égypte, l'a jeté en Égypte pour une raison bien spéciale, bien spécifique. Bien que ça pouvait apparaître que c'était la faute des frères qui l'ont vendu, et bien souvent c'est la nature humaine de vouloir rendre fautif telle personne, c'est à cause de son frère, à cause du cousin, à cause de sa femme, à cause du mari, à cause des parents, à cause des professeurs, on accuse tout le monde du monde entier. Et bien souvent, on perd notre énergie à cause de ça. On va passer à côté, on va aller en exil, on va déraper, parce qu'on a une tendance naturelle à vouloir accuser les autres. C'est à cause de lui que j'ai raté ma vie. C'est à cause de lui que j'ai loupé l'examen, etc. Yosef n'a pas fait ce calcul. Il a été jeté en prison, il a été renvoyé, vendu par ses frères, il a été envoyé en prison à cause de la femme de Potiphar, qu'il a dénoncée de façon tout à fait fausse. Et malgré tout, il n'avait aucune réclamation, aucune plainte, ni contre la femme de Potiphar, ni contre ses frères. Il était persuadé, convaincu, que c'est Hachem qui l'a envoyé. Comme il a dit après ses frères, « Lo atem, shelachtem oti ena, ki elokim. » C'est pas vous qui m'avez envoyé en Égypte, mais c'est Hachem, c'est Dieu. Il faut en effet un grand degré, un grand niveau de émouna, de foi parfaite en Hachem pour être conscient de cela, pour prendre conscience que même si dans certains cas, eh bien, telle personne est fautive, mais ce qui t'est arrivé à toi, c'est du Semin Hashemayim. Et c'est pas lui, eh bien, c'est une autre personne, ou alors un animal, ou la nature, etc. Même si quelqu'un, il t'a fait du tort, t'a volé de l'argent, alors c'est sûr qu'il est en faute. Mais cet argent, de toute façon, tu l'aurais perdu. Le Gaon de Vilna dit, si quelqu'un a volé une somme d'argent importante, une somme d'argent même importante, et même il l'a gardé en fin de compte, et il a fait hériter à ses enfants, ça veut dire qu'auparavant, cette somme d'argent lui revenait. Au ciel, on a décidé qu'il devait avoir telle somme d'argent. Mais lui, malheureusement, par son choix mauvais, il l'a obtenu par une avéra, par la faute de voler l'argent. Sans le voler, il aurait travaillé, il aurait gagné à la loterie, etc. d'une autre façon. Ça, c'est la émouna qu'on doit avoir en apprenant de ce passage. Yosef était persuadé d'une telle chose. Pour lui, c'était une véracité évidente. Que s'il est en Égypte, c'est Hachem qui l'a envoyé. Donc, il est en prison. Alors, nous, on dit 12 ans, 12 années, parce qu'on sait ce qui s'est passé. Mais ce qui est encore pire, c'est que Yosef, auparavant, ne le savait pas. A priori, il était destiné à être condamné à vie en prison. Il n'avait même aucun espoir d'en sortir. Alors, miraculeusement, Hachem l'a fait sortir de là-bas après 12 années. Mais de façon ordinaire et naturelle, il aurait eu toutes les raisons d'être brisé, d'être désespéré de la vie. Même dans ces conditions-là, Yosef n'a pas perdu les pédales, n'a pas lâché les rênes, il a gardé sa émouna, sa foi. Il était persuadé qu'Hachem l'a envoyé pour une raison spécifique. Alors tu poses la question, comment il est sorti? Les rêves de Sarah Mashkim et Sarah Ophim. Yosef, qui était un spécialiste pour trouver la solution des rêves, alors l'aura trouvé la solution au rêve, et en fin de compte, 2 ans après, lorsque Paro a fait ses rêves, eh bien, le Sar Amashkim a raconté à Paro qu'il y avait un homme en prison qui lui est spécialiste pour résoudre les rêves, pour expliquer les rêves. Et c'est comme ça, grâce à ça, que c'est sorti. Mais là aussi, c'était une combine qui était dirigée du ciel. C'est-à-dire qu'Hachem a voulu, n'est-ce pas, que ça se passe de cette façon-là, pour aussi garantir à la royauté. Parce que ça aussi, comment espérer qu'un homme qui est en prison pendant 12 années, quelqu'un qui vient des pays étrangers, tout d'un coup, il sort de la prison pour être le roi, c'est impensable. Il fallait que vraiment que Paro, qui était vraiment le roi, bon en fait Yosef était le vice-roi, et Paro qui était le roi d'Égypte, eh bien, soit fasciné par la sagesse de Yosef, et que Yosef lui a rendu un service énorme, parce qu'il était troublé jour et nuit par ses rêves. Et c'est Hachem qui l'a dirigé. Ça aussi, c'est une preuve de Emouna en Hachem, que tout ce qui se passe, eh bien, c'est du ciel. Alors, ça, ce que nous dit le Midrash, c'est que Yosef, avec cette tzitkout, il a pu traverser toutes ces périodes-là sans être ébranlé, sans être brisé, sans perdre espoir. Non seulement cela, quand il est nommé roi, eh bien, c'est encore une fois une nouvelle phase dans sa vie qui commence. Il est roi, vice-roi d'Égypte. Et là aussi, il a encore une fois toutes les raisons de s'enorgueillir. Il est vice-roi premièrement. Deuxièmement, c'est lui qui a sauvé le monde entier de la famine. Sans lui, eh bien, ça aurait été terminé. Parce que personne ne se serait préparé à cela. Et il y avait une famine terrible pendant cette année. Tout le monde aurait péri. Il avait toutes les raisons, n'est-ce pas, de s'enorgueillir, de penser que c'est lui le sauveur du monde. Et malgré tout, dit le Midrash, Yosef Omed Betzitko. Malgré tout, il n'est pas devenu un homme orgueilleux vaniteux. Il a su, n'est-ce pas, aussi se réconcilier à ses frères. Il leur a garanti que ce n'est pas leur faute, ce n'est pas eux qui l'ont vendu, mais c'est Hachem qui l'a envoyé ici pour une raison bien précise. Donc le Midrash nous dit que Yosef, étant en Égypte, sa grandeur c'est quoi? C'est qu'il a pu traverser plusieurs périodes, phases, dans sa vie, 3-4 phases différentes dans la vie, et toute situation les maîtriser, les surmonter avec une sagesse remarquable. Alors en fait, ça s'appelle la Midat Haishtavut. Il dit que une personne, la grandeur d'une personne, Ishtavut, c'est la stabilité, l'égalité. C'est-à-dire quoi? Quelqu'un qui réagit de la même façon lorsque tu lui fais un honneur remarquable ou alors une insulte remarquable. Lorsque tu l'as respecté, honoré devant 1000 personnes ou alors insulté, mépris devant 1000 personnes, pour lui c'est exactement pareil. Alors évidemment c'est un niveau très, très élevé, on n'est pas à ce niveau-là. Mais c'est important, si on veut avancer dans la vie, de définir quel est le sommet de la montagne, où est-ce qu'on veut arriver. Alors ensuite, on va se frayer un chemin pour y arriver tout doucement, petit à petit, par un travail quotidien toute sa vie. Mais il faut savoir qu'en fait, ça doit être pour nous une des finalités de la vie. De ne pas être impressionné par tout ce qui se passe dans la vie, par les réussites de la vie, ainsi que les échecs. Comme Yosef HaTzadik, c'est que la grande réussite en tant que roi, le grand échec en tant que prisonnier, jeté en prison avec aucun espoir de sortir, eh bien, Yosef n'a pas été ébranlé par cela. Dans tous les cas, il a gardé la maîtrise de soi, il maîtrisait sa personnalité, son caractère, sans déraper ni à droite ni à gauche. Ni s'envoler dans l'orgueil, ni être brisé dans le désespoir, mais chaque fois, il maîtrisait sa façon de penser, de réfléchir et de ressentir tout ce qu'il traversait. Dans le même ordre d'idée, dit le Midrash sur Shlomo HaMelech, c'est en fait Gemara, Sanhedrin Daf Kaf Amud Bet. Dit la Gemara, traité Sanhedrin, page 20, feuille 20, page 2. Nous dit la Gemara que Shlomo HaMelech, il était Melech, était roi. Nous dit la Gemara qu'au départ, eh bien Shlomo était roi sur le monde entier. ensuite uniquement sur Israël, ensuite sur Jérusalem, ensuite uniquement sur son lit, chez soi à la maison, et ensuite sur son bâton, Malach al-Maklo. Parce qu'en effet, on sait que Shlomo HaMelech a passé plusieurs phases aussi, il a été répudié aussi de la royauté, et ensuite il était aussi pendant un certain temps errant et vagabond, il a perdu la royauté. Et il était Meler al-Maklo, roi sur son bâton. Ça veut dire quoi? C'est quoi? Ça veut dire que même lorsqu'une personne n'a plus rien, il a perdu la royauté mondiale. Il est errant, il est vagabond avec un bâton. Mais il reste Meler. Il reste un roi. C'est quoi un roi? Un roi, c'est quelqu'un qui a une maîtrise de soi. Pas quelqu'un qui est dominé par son instinct et ses pulsions, et par ses tentations et ses loisirs, et ses habitudes, etc. Et s'il n'a pas son café le matin, il est déprimé. S'il n'a pas, n'est-ce pas, le loisir quotidien, il est brisé, il est attristé, etc. Mais c'est un homme qui maîtrise toute situation dans laquelle il est. Même s'il n'a rien, il n'a qu'un bâton avec lequel il est errant, il est en exil. Eh bien, il sait comment gérer cette situation de la façon la plus parfaite possible, selon son caractère, ses conditions, selon ce qu'il a comme situation et circonstances. Ça, en fait, c'est la vraie malchoute, c'est la vraie royauté. Un homme qui est digne d'être roi, c'est pas un homme qui est servi par 200 ou 1000 esclaves, c'est pas ça la royauté. D'abord, il faut être melech al atzmo. Il faut régner sur soi, sur son bâton, sur son lit, quand tu es chez toi à la maison, n'est-ce pas? Au sein de la famille. Quelle est la conduite? Est-ce que tu te maîtrises ou pas? Et c'est là où tu peux, n'est-ce pas, être roi sur Yerushalayim, sur Am Israël et sur le monde entier. La malchut, la royauté, c'est une maîtrise de soi auparavant. Comme Yosef, qui a su gérer la situation chez son père, chez Potiphar, en prison et en tant que vice-roi. Ne pas être impressionné, ne pas être déboussolé par les différentes phases de la vie, qu'elles soient bonnes ou mauvaises, mais chaque fois bien gérer la situation comme il faut, comme il se doit. Dilish la Kadosh, quelqu'un qui n'a rien à manger parce qu'il est pauvre, Chazé Shalom, il n'a que du pain sec et de l'eau. Eh bien, que faire? Dilish la Kadosh, il ne faut pas manger n'importe comment, debout sur un tabouret. Non, il faut dresser une belle table avec une nappe, s'il a une nappe blanche. Dresser une belle table, assieds-toi sur la chaise, la meilleure que tu as, et fais un repas, comme un repas royal. Avec quoi? Avec du pain et de l'eau. Avec du pain et de l'eau, fais un repas. Fais comme si tu étais un homme riche. Pourquoi? Tout d'abord, là encore une fois, c'est une façon de bien gérer la situation, de te maîtriser, de ne pas être brisé par les conditions misérables et mauvaises que tu as. Mais tu es conscient que tu es habité par une Neshama Gdosha, une âme sainte, une âme élevée. Et cette âme, je dois la respecter. Que j'ai un morceau de pain ou alors un repas royal, c'est pareil. Parce que mon âme et mon corps, je dois la respecter avec les conditions que j'ai, qu'elles soient que bonnes ou mauvaises. Deuxièmement, dit l'Ishla Kadosh, cette façon de gérer la situation va t'amener la richesse. Comme dit la Gemara, Aniuta Azla Bata Ania. La pauvreté, elle poursuit le pauvre. Ça veut dire quoi? Quand tu te conduis comme un pauvre, eh bien, la pauvreté te court derrière. Tu te conduis comme un riche, sans s'endetter évidemment, eh bien, la richesse va te poursuivre. Tiens, uniquement un morceau de pain et de l'eau, tu vas dresser une belle table, la table que tu as, les meilleures conditions que tu as, eh bien, tu t'es conduit de façon royale. Eh bien, cette richesse, elle va te poursuivre, et elle va t'attendre en fin de compte. Ça, c'est une façon, n'est-ce pas, extraordinaire de maîtriser ces facultés, ces forces qu'Hachem nous a données, de ne pas être ébranlé par n'importe quelle situation qui se passe un jour ou un autre. Il y a aujourd'hui à Bnei Brak une grande yeshiva Slabodka qui compte environ 400-500 élèves. Cette yeshiva était il y a quelques dizaines d'années en diaspora, en Europe, et cette yeshiva comptait là-bas aussi 350 élèves. Et lorsque la yeshiva a déménagé de diaspora en Israël à Bnei Brak, eh bien, un des élèves raconte, lorsqu'ils ont inauguré la yeshiva, alors très peu d'élèves ont pu monter avec, il y avait uniquement 4 élèves. 4 élèves et leur yeshiva. Et un des quatre élèves raconte que son maître, l'Orge Yeshiva, eh bien, il a commencé un cours pour inaugurer la Yeshiva. De cette façon-là, il a ouvert, il a commencé, débuté la Yeshiva par un cours sur la Gemara. Et il avait une habitude, Le Rav, c'est que lorsqu'il rentre au Beit Midrash, eh bien, d'abord il montait sur la petite estrade qu'il y avait, en faisant la Kodesh, il embrassait, n'est-ce pas, il se baissait pour embrasser la paroche de Aron HaKodesh, et ensuite il se mettait en face du stander, en face du stander en question, pour commencer son cours de Gemara avec un sérieux et une joie remarquable, avec un rapprochement à Hachem qu'on pouvait sentir et palper. Et c'était le raconte que son maître, lorsqu'il a fait son cours devant 4 élèves, eh bien le cours était exactement pareil, comme s'il le faisait devant 350. Avec le même sérieux, la même joie, la même façon de se baisser et d'embrasser la palochette, il n'a pas été dérangé. Bien qu'il était habitué pendant des dizaines d'années à donner des cours devant 300-400 élèves, il n'a pas été dérangé qu'il y ait en face de lui uniquement 4 élèves. Là aussi c'est un homme qui n'est pas impressionné, pas dérangé par les conditions extérieures qui sont autour de lui. Il sait qu'il transmet une Torah qui est authentique, qui est véridique, qui est réelle. Alors qu'il la transmet devant 4 élèves, 1 élève ou 1000 élèves, c'est exactement pareil. Ça, n'est-ce pas, si on apprend ça de Yosef HaTzadik et Shlomo HaMelech, ne pas être ébranlé, déboussolé par les conditions qui sont bonnes et mauvaises. Pas aussi des fois, un homme il peut être impressionné parce qu'il a devant lui 1000 spectateurs. Il perd un peu les pédales. Et là aussi, c'est une déficience de la grandeur de la personnalité humaine que Hachem nous a confiée. Une personne doit savoir gérer n'importe quelle situation et se maîtriser. Qu'il ait des bonnes conditions ou mauvaises, qu'il ait uniquement un spectateur ou alors 1000, pour lui, c'est exactement pareil. Et par rapport à cela, c'est une réelle histoire qui s'est passée il y a quelques dizaines d'années ici en Israël. Il y avait un rav qui avait l'habitude de faire un cours le vendredi après-midi. Après-midi, c'est une heure qui est un peu difficile pour se préparer à Shabbat. Donc, il y avait dans ce cours-là toujours des dizaines de personnes, des fois 100, 200 personnes qui n'écoutaient son cours. Bon, un beau jour, il y avait une chaleur terrible, plus de 40 degrés à l'ombre, et personne n'est venu au cours. Alors il vient donner son cours, il n'y a personne. Personne. Bon, c'est pas quoi faire. Même pas un élève qui a écouté. Bon, il se dit, bon, j'ai une kviout, une habitude de faire un cours, je ne vais pas le manquer, je fais mon cours. Il a fermé les yeux, il a commencé à faire son cours. Bon, il fait son cours, n'est-ce pas ? Il parle du Shabbat Kodesh, il commence à préparer le Shabbat, etc. Et par hasard, quelqu'un est passé, il voit par la fenêtre, un rav qui est en train de faire un discours tout seul. Et puis c'était un homme qui était tout à fait laïque. Alors il dit, ah, voilà une bonne occasion de se moquer de ces religieux, ces orthodoxes un peu tarés, un peu cinglés. Je vais voir ce qu'il fait là-bas. Et ensuite, je vais envoyer ça à la presse. Alors bon, et puis il s'est arrêté pour écouter ce rav, pour écouter ce qu'il est en train de raconter, de baratiner, pour ensuite se moquer de lui. Il a écouté pendant un quart de 20 minutes, et il a été influencé, impressionné par ses paroles, et grâce à ça, il a fait tchouva. Imaginez-vous. Ça, n'est-ce pas, c'est lorsque une personne n'est pas impressionnée par ce qui se passe autour, il n'a personne, pas un seul élève, il fait son cours, eh bien, il a réussi à faire tchouva à quelqu'un qui était a priori anti-Torah, qui est venu là pour se moquer de lui. Ça, c'est lorsqu'on a une maîtrise totale de soi et ce qu'on peut mériter. Et encore un dernier exemple qui en fait le plus flagrant. C'est l'histoire de Rabbi Akiva. Rabbi Akiva qui a fait tchouva à l'âge de 40 ans. Alors que lui aussi était tellement loin de la Torah, il détestait les Talmidei Chachamim. Il avait une haine démesurée pour les Rabbanim, Rabbi Akiva. À l'âge de 40 ans, il a fait tchouva, on connaît grâce à son épouse Rachel. Bon. Et Rabbi Akiva, il a monté, en fait, la yeshiva la plus grande au monde, qui a jamais existé. Il avait dans sa yeshiva 24 000 élèves, 24 000 géants en Torah, qui étaient tous des Tanaïm. Des gens qui étaient vraiment des géants en Torah, on ne peut pas s'imaginer quelle grandeur ils avaient. Et malheureusement, comme on connaît l'histoire, ces élèves-là ont péri pendant un mois entre Pessah et Shavuot, Lag BaOmer. Donc il y avait plus de 700 levayot par jour, plus de 700 morts qu'on enterrait tous les jours, et des gens qui étaient tous des géants en Torah. Et une fois que les 24 000 élèves ont été exterminés, eh bien, dit la Gemara, Aholam Hayashamem, le monde était vide de Torah, était sans Torah, parce qu'en effet, c'était eux qui tenaient la Torah. Alors là aussi, un homme normal, a priori, aurait dû perdre la raison, ou alors tout au moins être brisé, désespéré, sans aucun espoir. Et dit la Gemara, dans Yvamot Korbe Akiva, ne s'est pas arrêté. Il a cherché encore d'autres élèves. jusqu'à ce qu'il est arrivé dans le sud d'Israël. Il a trouvé là-bas 5 élèves, Rav Mir, Rav Yehuda, Rav Shimon Bar Yochai, et il aura encore une fois enseigné la Torah. Donc en fait, il a recommencé à zéro. Après 24 années de tshuva, 24 000 élèves, une fois que tout est parti en fumée, il a toutes les raisons de dire que ma Torah, c'est pas ça. Ma tshuva, elle est mauvaise. J'ai raté, j'ai échoué dans ma mission. Ma Torah n'est pas acceptée, n'est pas agréée au ciel. Et ça, en fait, ce qui est difficile, c'est pas uniquement l'échec. C'est que des fois, tu as des raisons, des preuves flagrantes qui te montrent que c'est pas ça. Pas aussi, c'est pas sadique. Ils ont pu se dire, eh ben, j'ai fauté, j'ai eu tort. Mes rêves, c'est n'importe quoi. Je me suis enorgueilli sur mes frères. Toutes les raisons, n'est-ce pas, de perdre espoir et de dire que tout mon chemin, eh bien, il est faussé, il est faux, il n'est pas agréé au ciel. Et lorsqu'une personne arrive à maîtriser tout cela et à gérer cela, à se maîtriser, c'est là où la délivrance, elle arrive comme Yosef qui tout d'un coup, n'est-ce pas, est sorti et est devenu le vice-roi d'Égypte, pas aussi Rabbi Akiva. Malgré toutes les raisons qu'il avait de se dire que sa Torah, elle vaut rien, sa tshuva n'est pas acceptée. La preuve que sa Yeshiva qu'il a montée, il n'y a pas un seul élève qui est resté rescapé. 24 000 élèves, tous sont morts. Lui, il n'arrête pas. Il va chercher encore d'autres élèves. Il en trouve combien ? 5. Pas 24 000. Pas 1000. Pas 200. 5 élèves. Lorsqu'on passe, tu donnes un cours devant 24 000 élèves, c'est une audience mondiale. Après 5 élèves, c'est démoralisant, c'est décourageant. Ça ne donne pas envie de commencer le cours. Rabbi Akiva recommence à zéro. Il ne s'arrête pas. Et toute la Torah qu'on a de nos jours, eh bien, elle vient spécifiquement de 5 élèves. Rabbi Akiva était d'une telle envergure spirituelle que Moshe Rabbeinu, lorsqu'il a vu qui était Rabbi Akiva, a dit à Hachem, pourquoi est-ce que tu as donné la Torah par moi? Il fallait la donner par Rabbi Akiva, qui avait donc apparemment, dans certains domaines, en tout cas, une grandeur qui était supérieure à celle de Moshe Rabbeinu. Et en effet, c'est Rabbi Akiva qui, grâce à ces forces-là, ne s'est pas désespéré, pas découragé. Il a recommencé à zéro avec 5 élèves. Ça, c'est une personne qui n'est pas ébranlée par tout ce qui se passe. Mais au contraire, il prend espoir, il sait bien qu'il y a une mission bien spécifique qui l'attend. Même s'il est juste en prison pendant 12 années, il sait que Hachem l'a envoyé pour une mission bien spécifique. Et apparemment, d'après l'histoire qui est arrivée à Yosef, on doit bien comprendre que Yosef a su bâtir pendant ces 12 années cette personnalité de taille, ce caractère tellement costaud et puissant, grâce auquel il a pu mériter d'être le vice-roi d'Égypte pendant des dizaines d'années. C'est-à-dire, il a su, n'est-ce pas, ne pas être brisé par les conditions médiocres qu'il avait, mais au contraire, essayer d'exploiter n'importe quelle petite faculté et possibilité qu'Hachim lui a donnée pour se bâtir en sachant pertinemment qu'il y a un grand devoir qui va l'attendre dans quelques années. Ça, on doit savoir de nos jours plus que jamais. C'est que tout ce qui nous arrive, ce n'est pas par hasard. Tout ce qu'on passe dans la vie, chaque jour, chaque année, comme réussite ou comme échec, eh bien, Hachem te prépare à une mission dans 5 ans, dans 15 ans, dans 20 ans, dans 30 ans, on passe à voir. Et tout d'un coup, on va te demander, on va te dire, voilà, tu dois gérer tes situations. Comment ? Et là, tu feras appel à ton passé. C'est pourquoi c'est hyper important de savoir qu'il n'y a pas une journée qui est de trop, il n'y a pas une heure en trop. On doit exploiter son temps de façon maximale possible. Ça, on appelle ça de nos jours la bonne humeur ou mauvaise humeur. Je me suis levé du pied gauche. C'est une phrase qui est anti-Torah. Ça ne veut rien dire, pied gauche, bonne humeur, mauvaise humeur. Tu dois, tous les jours, exploiter ton potentiel au maximum possible. Que les conditions soient bonnes ou mauvaises, peu importe. Ça n'a aucune importance. Aucune importance. Ce que dit Rodalovot, Mileta Ishtavut. Que pour toi, c'est pareil. Si on va te mépriser ou t'honorer, c'est pareil. Parce que Hachem te prépare à quelque chose. Hachem te demande de faire un tikkun aujourd'hui. Ça réussit ou ça a échoué, c'est un tikkun. On doit, n'est-ce pas, on doit exploiter son potentiel au maximum possible, en sachant que lorsque je vais réaliser le maximum de ce que je peux dans telle situation, eh bien je fais le plus grand tikkun. Même si j'ai pas de souka, comme le Gomivina, même si j'ai que du pain sec et de l'eau, même si je suis en prison, même si je suis le roi, j'exploite mon potentiel physique, morale, intellectuelle, spirituelle, de façon maximale. Et là, je suis sûr et certain que je suis le grand tikkun. Le tikkun, où est-ce qu'il est? Je ne le vois pas. Dans 2 ans, je le verrai. Lorsque Yosef, il est sorti de la prison, c'est là où il a compris tout ce qui s'est passé. Et il a compris, n'est-ce pas, qu'en effet, Cette prison, c'est ce qu'il a bâti. Une puissance qui dépassait toute l'Égypte. Même Paro, apparemment. Comment est-ce qu'il a fait ça? Parce qu'il n'a pas été brisé. S'il avait perdu espoir, il n'aurait pas pu être le roi. Impossible. Au contraire, lorsque tu sais exploiter les petites conditions, les conditions médiocres et difficiles qu'Hachem t'a données, eh bien c'est là où tu pourras mériter de gérer, n'est-ce pas, un pays entier dans la richesse ou dans la famine. Comment est-ce qu'on peut mériter, n'est-ce pas, de diriger Shlomo HaMelech? Eh bien, sa faculté d'être roi, parce qu'il savait aussi être le roi sur son bâton. Quand tu sais te maîtriser, être roi sur ton caractère, t'es plus sur ton instinct, c'est là où tu peux diriger le monde entier. Ça, c'est la leçon qu'on apprend du Yosef HaTzadik.